CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Bonjour, bonjour, merci d'être là dans ce magazine d'actualité en Tarn-et-Garonne. Aujourd'hui, on va vous proposer la 30e édition de Tractomania, bourse d'échange internationale autour du tracteur, mais pas que, organisée par l'association Costade Locomotion. Ce sera en deuxième partie de cette édition, puisqu'avant ça, c'est l'époque du safran.
Socosissime et ses annonceurs, partenaires du MAC du Tarn-et-Garonne.
Ça y est, c'est la saison, ça commence à pousser les jolies fleurs violettes qu'il ne faut surtout pas manger. On en parle aujourd'hui avec Denise Soulier. Bonjour Denise.
Bonjour Lisa.
Vous avez une safranière du côté de Cazelle, vous êtes donc experte dans ce domaine. Alors pourquoi j'ai dit qu'il ne fallait pas les manger les fleurs ?
Parce que tout simplement, c'est une fleur qui n'est pas comestible. Nous ne pouvons manger que le pistil, et encore, c'est une épice, ce n'est pas un aliment de base que l'on peut pas cuisiner une quantité de pistil de safran. C'est simplement une épice.
Et la fleur en elle-même, c'est du poison.
La fleur est du poison. Ce n'est pas une fleur comestible.
Même si elle sent
contrairement à d'autres fleurs, de nombreuses fleurs sont comestibles, mais pas celle du crocus sativus.
À son odeur, on se dirait, tiens, j'en ferais bien une petite infusion après en avoir ôté le pistil, mais donc non. Vous cultivez du safran du Quercy?
Alors, je cultive du safran, je cultive le crocus sativus. Le crocus sativus, c'est une plante, c'est un bulbe, qui est le même partout dans le monde. Puisque la fleur est stérile, elle ne fait pas de graines, elle ne fait pas de fruits, elle ne fait pas de graines. Et donc, elle ne peut pas s'hybrider, on ne peut pas sélectionner la plante. Le bulbe safran est le même partout dans le monde.
Mais
en Quercy, cette plante a son terroir en Quercy qui fait la qualité, qui donne la qualité au safran.
Si elle ne se reproduit pas, comment est-ce qu'elle se cultive ?
Alors, elle se reproduit de manière végétative, c'est-à-dire que ce sont les bulbes qui se reproduisent. Pendant l'hiver, le bulbe principal se détruit et est remplacé par de nombreux petits bulbes qui peuvent devenir aussi gros, même plus gros que les bulbes parents.
Elle est immortelle.
Oui.
C'est la saison du safran, on les voit fleurir, là ça y est, c'est le moment de récolter les petits pistils. Alors ça pousse, quand on en voit un, on le cueille, le lendemain il y en a trois quoi.
Oui, alors déjà il faut quand même dire que c'est une plante cultivée, on ne la trouvera pas en sauvage. Et en effet, pour le moment on n'a presque pas de feuillage, sortent de terre des pointes blanches. Et là on peut s'attendre à ce que le lendemain il y ait une fleur à la place de cette pointe blanche. Tout se passe la nuit, on ne peut pas savoir la veille combien on aura de fleurs. Le lendemain matin on découvre notre safranière en début de floraison, comme en ce moment avec quelques fleurs. Mais dans 10 jours, chaque matin, ce sera une explosion de fleurs. Et là on cueillera tout dans la matinée et ça recommencera le lendemain.
On ne peut pas savoir non plus si c'est une bonne ou une mauvaise année en termes de safran.
On ne peut pas savoir, on se trompe chaque année. Là, par exemple, cette année, nous avons eu un hiver très pluvieux. Ce n'était pas très bon pour la plante. Le feuillage jaunissait. On s'attendait à avoir des bulbes pas très gros. En définitive, quand on a commencé à arracher au mois de juin, les bulbes étaient quand même assez gros. Et après, on a eu un été plutôt humide, plutôt frais et humide, alors que le safran aime des étés secs et très chauds. Donc maintenant, on va voir. On ne sait pas. C'est en 1559, l'historien Gilles Caster disait qu'en 1559, cela se passait exactement comme cette année, c'est-à-dire que en septembre, on s'attendait à une mauvaise récolte. Quand le mois d'octobre est arrivé, en définitive, les fleurs montaient bien, on s'attendait à une bonne récolte, et puis au fur et à mesure de la récolte, ce n'était pas une si bonne année que ça, parce que les fleurs ne montaient pas assez.
Denise Soulier, vous cultivez le safran, vous êtes aussi une historienne du safran, on peut le dire, là vous remontez en 1559. Voilà, vous avez aussi des anecdotes qu'on peut écouter lors des visites que vous organisez dans votre safranière. Vous êtes du côté de Pen. Et la prochaine visite aura lieu ce dimanche.
Alors, j'organise tous les ans le troisième week-end d'octobre, donc ce samedi et ce dimanche, le matin de 10h30 à midi, la visite de ma safranière, au cours de laquelle j'explique la culture, la récolte, l'histoire du safran dans notre région, et la cuisine. Je procède aussi à quelques dégustations. Voilà.
Alors quand on dit l'histoire du safran dans notre région, vous avez plein d'anecdotes sur certaines personnes qui font passer ce pistil rouge et odorant pour du safran alors que ça n'en est pas, ou qu'ils le vendent un peu gorgé d'eau, comme ça il pèse plus lourd. Vous avez fouillé l'histoire du safran.
Oui, c'est exact. Les fraudes ont toujours existé, elles existent encore. Et le safran n'était pas toujours du vrai safran, c'était parfois des chairs de viande séchées et filandrées
pour qu'elles
ressemblent au safran. Il faut dire, c'est vrai, la odeur n'est pas la même. Mais tout à l'heure, vous avez remarqué que la fleur était très odorante, sentait bon. Le pistil, une fois séché, qu'il nous donne l'épice, n'a pas la même odeur, n'a pas le même parfum. C'est un parfum d'épice qui est déjà agréable après en cuisine, mais qui n'est pas aussi agréable que l'odeur de la fleur. Donc on peut facilement tromper son monde avec des fils de viande et filandrées, soit avec des pistils d'autres fleurs, comme notamment les fleurs de souci sont souvent vendues pour du safran.
Sacrilège. Vous avez parlé de l'histoire du safran dans le Quercy, en pays albigeois en particulier. Vous disiez que c'était le terroir originel, enfin tout du moins un terroir propice à la culture du safran.
Oui, le safran, on le trouve dans notre région environ depuis 1300 à peu près, parce que nous avons en principe une région bien adaptée à la culture du safran. Comme je vous disais tout à l'heure, avec des étés chauds et secs, et surtout des automnes agréables. Avec la douceur de l'automne, cela est propice à la floraison et à du safran de bonne qualité. Le safran aime le soleil. Et donc, ce safran fait l'histoire de l'Albigeois, qui va jusqu'à Montauban, pendant plusieurs siècles, jusqu'à la Révolution.
Mais il vient d'où, s'il a été planté en 1200 et des brouettes?
Alors, il arrive, du point de vue botanique, il arrive de Crète. Mais du point de vue historique, il arrive plutôt des contreforts de l'Himalaya, du Tibet, du nord de l'Inde. Et donc, c'était une époque des croisades où l'on ramenait les épices. Les gens avaient l'habitude de ramener des produits qui n'étaient pas cultivés dans notre région. Et donc, le safran en faisait partie. Et ils ont commencé d'abord par le consommer. Et ensuite, ils sont revenus avec des bulbes. Ils ont commencé à le planter, notamment dans notre région.
Denise, vous allez donner des trucs et astuces pour la culture du safran lors de la visite de votre safranière ce dimanche ?
Oui, bien sûr. Je vais montrer comment on plante les bulbes, comment on cultive la terre toute l'année, bien faire attention à ce feuillage qui se développe l'hiver et qui fait la gourmandise de tous les herbivores, parce que c'est un feuillage très riche. Et les herbivores ne se jetteront pas sur la salade à côté, se jetteront sur le feuillage du safran dont ils ont besoin l'hiver, en période très froide. Et ensuite, je parlerai aussi de l'arrachage et surtout de la récolte, puisque ça sera, si j'ai des fleurs ce week-end, ce sera l'occasion de montrer comment on récolte et comment après on traite le safran, c'est-à-dire l'émondage, correspond à... Donc, on détache le pistil de la fleur sur une table et ensuite le séchage.
Sachant qu'on peut le garder plusieurs années, hein, rangé dans un placard dans l'obscurité.
Oui. Normalement, il est bon de ne pas l'utiliser tout de suite, d'attendre quelques mois avant de l'utiliser. Et ensuite, on peut le garder plusieurs années s'il est correctement séché, ce qui n'est pas toujours le cas.
Et un pot de 0,2 g contient une centaine de filaments. Ça fait beaucoup d'émondages, là.
Et oui, parce qu'on compte. On compte 200 fleurs pour faire 1 gramme de safran. Chaque fleur contient un pistil auquel est rattaché 3 stigmates. Donc, ce qui fait que dans 1 gramme de safran, il y a 600 filaments. Et donc, avec 600 filaments bien séchés, on peut aromatiser environ 80 à 100 assiettes.
Vous cultivez combien en termes de superficie ?
Alors, les surfaces de safran sont toujours très petites. Moi, j'ai une parcelle qui fait environ 300 mètres carrés, sur laquelle il y a environ 20 à 25 000 bulbes, et ce qui me donne une récolte. Si elle est bonne, je devrais récolter au moins 25 000 fleurs. Et si l'année est mauvaise, je peux en récolter que 300. Ça dépend des années.
Et ça dure pas très longtemps, hein, le moment où justement les fleurs fleurissent.
Alors, donc les fleurs commencent à monter début octobre, et la floraison s'étale environ sur 3 semaines. C'est-à-dire que nous terminons fin octobre, début novembre, avec notre pic de floraison entre le 20 et le 25 octobre, en principe.
Et où faut repasser tous les jours donc pour arracher les fleurs qui poussent au même endroit, quoi.
Oui. Tous les matins, on parcourt toute la safranière, on cueille toutes les fleurs qui sont montées, à peine ouvertes, pas trop ouvertes. Et donc après, à midi, il ne reste plus rien dans la safranière. Les nouvelles fleurs monteront la nuit suivante et on recueille le lendemain matin.
Denise Soulier, vous êtes un puits de science en termes de safran. D'où vient votre formation ou comment est-ce que vous avez appris à cultiver le safran ?
D'une part, je me suis toujours intéressée à la botanique, à l'histoire de notre région et donc du safran.
Vous êtes venue avec un petit cahier où il y a plein d'anecdotes qui remontent à Milan, là.
Oui, tout à fait. Là, j'ai pas mal. Les historiens ont beaucoup écrit sur le safran et donc j'ai pas mal d'anecdotes que je raconterai lors de mes visites de safranières. Voilà. Et surtout parce que en 1998, nous avions monté une association dans le Lot qui regroupait tous les gens passionnés de safran. C'est de là qu'est partie la relance du safran dans le Quercy, alors que son terroir historique était l'Albigeois.
Une culture qui déclinait un peu.
Qui déclinait.
De moins en moins de culture, peut-être de moins en moins de safran.
Oui. À la Révolution, il y a eu une chute brutale de la culture du safran, et même brutale. Tellement bien que les autorités préfectorales se demandaient pourquoi cette culture s'était arrêtée brutalement. Alors, il y avait plusieurs raisons à l'époque. Des années pluvieuses, années mauvaises, et les bulbes qui pourrissaient, donc de moins en moins de récoltes dans les safranières. Une culture donc qui n'était plus rentable, une époque aussi difficile, c'était l'époque de la Révolution, les problèmes il fallait revenir à des cultures plus vivrières, et en plus, la culture safran montait vers le nord, et notamment dans la région du Gâtinais, c'est-à-dire cette région sud d'Orléans, qui a vu sa prospérité après nous, jusque dans le milieu du XXe siècle. C'est ce qui a un peu porté tort à notre région.
On va revenir aux bases du safran dans le Quercy, notamment avec la visite de votre safranière, Denise Soulier. C'est donc, je le redis, à peine. Et outre toutes ces anecdotes historiques, tout le savoir-faire qu'il y a autour de la culture du safran et dans la récolte de ces petits pistils, c'est ça ?
Oui, c'est l'extrémité du pistil. Ce sont les 3 stigmates qui forment l'extrémité du pistil.
Vous connaissez aussi plein de recettes autour du safran. Là, sous les yeux, j'ai la marquise au safran. Hein. Je ne vais pas la donner, la recette. Il faut venir ce dimanche.
Oui. Alors, c'est la recette d'un apéritif albigeois, tarné, que l'on fait avec du vin blanc, du citron, du sucre, du safran, bien sûr. Et à la fin, au moment de servir, on rajoute la clairette de Die. La recette la plus facile à faire, c'est un dessert au safran, c'est la crème anglaise au safran. Vous prenez un demi-litre de lait, vous prenez 5 jaunes d'œufs, 150 g de sucre, un dixième de gramme de safran, c'est-à-dire environ 30 à 50 filaments. Et après, vous faites votre crème anglaise comme vous savez la faire. Il faut juste faire attention, ne faites pas bouillir une crème anglaise. Il faut arrêter la cuisson avant le stade de l'ébullition, vers 90 degrés. Et vous dégustez votre crème plusieurs heures après pour que le safran ait eu le temps d'infuser dans la crème.
Et alors, la question bête et méchante pour conclure cet entretien, si on met un peu de safran dans une boîte d'œufs, est-ce que ça fait comme les truffes et au moment où on les casse, il y a le goût ?
Quand même pas. Mais c'est vrai que le safran au contact d'un aliment donne le goût à l'aliment.
Elle n'était pas si bête que ça, ma question. Denise Soulier et sa safranière à venir visiter donc ce week-end, samedi et dimanche. Alors le mieux, donc c'est 1h30, visite gratuite de cette safranière. Et il faut idéalement s'inscrire.
Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce que je pense que si j'ai des groupes d'une vingtaine de personnes, ça ira bien. Non, ne vous inscrivez pas. Juste à partir en haut de Casal, il faut suivre le fléchage qui sera indiqué pour arriver jusqu'à ma ferme.
Suivre l'odeur. La safranière de Denise Soulier, tout son savoir. Merci beaucoup, Denise.
Merci, Lisa.
Et la suite de ce mag du Tarn-et-Garonne après la musique à propos de Tractomania, 30e édition de cette bourse d'échange international autour du tracteur, mais pas que, à Caussade ce week-end.
FM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
400 exposants à Caussade ce week-end pour la 30e édition de Tractomania, bourse d'échange internationale, organisée par l'association Caussade Locomotion, dont le président Yves Durand est avec nous. Bonjour Yves.
Bonjour.
Tractomania s'agrandit cette année avec 3 espaces dédiés à Caussade.
Tout à fait. 3 sites sont proposés cette année. On a de plus en plus de demandes et on est obligé de s'agrandir. Le site 1 n'étant plus suffisant pour supporter les exposants, on a créé un deuxième site qui s'appelle la Place du Fil et qui se trouve en centre-ville de Caussade. C'est une nouvelle halle qui n'a que 2 ans d'existence.
Alors le site 1, c'est l'espace Bonaï, c'est là seulement que le pass sanitaire sera demandé, puisqu'on pourra trouver lors de cette bourse donc autour du tracteur, mais aussi de l'automoto, des miniatures, des pièces détachées et de la documentation autour du tracteur. Vous êtes Tractomania à Caussade Locomotion.
Oui, alors le site 1 est bien entendu le site principal où c'est qu'il y a tous les exposants, des professionnels qui viennent vendre de la pièce pour les véhicules que vous avez énumérés, tracteurs, auto, moto, documentation miniature, tout ça se trouve sur le site 1, ainsi que de la restauration qui se fait dans la grande halle.
Bourse d'échange internationale, vous avez de plus en plus d'exposants, des pièces qui viennent de plus en plus loin. Le vieux tracteur, ça marche encore ?
Oui, oui, oui. Alors, au niveau exposants, nous avons des exposants, beaucoup d'exposants qui viennent de Hollande, la Belgique. Il y a beaucoup de Belges, car ils sont très amateurs des tracteurs anciens, Belges, Suisses, Italiens, Espagnols. Beaucoup d'Espagnols, quelques Portugais, et il y a quelques années, on a eu aussi un Américain qui était venu, un Mexicain ainsi qu'un Américain qui était venu exprès pour Tractomania.
Qu'est-ce qui explique selon vous le succès de Tractomania ? Parce que là, c'est très professionnel hein, ce que vous nous dites. Moi, j'y connais rien en tracteur, j'ai aucune raison de venir en fait.
Mais effectivement, cette bourse d'échange, et je veux qu'on l'appelle bourse et non pas foire, cette bourse d'échange est dédiée qu'aux professionnels de la pièce. On ne mélange pas tout ce qui est, exemple, vide-grenier, brocante ou autre. Ce n'est lié qu'à l'agriculture et qu'à l'agriculture ancienne. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas de tracteurs modernes. Tout ça, il n'y en a pas. Il n'y a que des anciens.
Pour les professionnels, c'est exactement ce qu'il faut. Mais pour le tout public, le tout venant, vous proposez des animations.
Voilà. Pour le public, vous avez les animations donc, qui se trouvent sur le cours Didier Rey. Sur le cours Didier Rey, vous y trouverez bien entendu une exposition de véhicules anciens, mais aussi de la démonstration de moteurs fixes. Il y aura des moteurs fixes, il y aura des machines à vapeur. Alors bien sûr, cette année, nous avions prévu pour les 30 ans la vapeur, mais on n'a pas pu le faire pour des raisons techniques et surtout pour des raisons de sécurité, mais ça s'est reporté en 2022.
C'est quoi un moteur fixe, Yves Durand ?
Des moteurs fixes, ce sont des moteurs qui sont posés au sol et qui permettaient d'alimenter des machines. C'est comme les machines à vapeur. C'était les personnes qui avaient ces grosses machines qui peuvent atteindre jusqu'à 15-20 tonnes. Ils passaient de ferme en ferme, ils posaient cette machine-là et avec une grosse courroie alimentaient des batteuses, ils alimentaient des petites machines qui étaient fixes. C'est pour ça qu'on appelle un moteur fixe, c'est un moteur qui est posé au sol et qui alimente après des machines avec des courroies.
Et peut-être un joyau en termes de véhicule ancien, quelque chose dont vous seriez fier de nous parler aujourd'hui ?
Si vous voulez, les autres années, on avait des thèmes, mais ces thèmes-là, on n'a pas pu les faire. Et on prend toute marque cette année. Un véhicule à l'honneur, pour moi, c'est tous. Mais ça, c'est que moi.
Pour la 30e édition de Tractomania, donc cette bourse d'échange internationale autour du tracteur, mais pas que, hein, du véhicule ancien. Comment ça s'organise une manifestation comme ça, Yves Durand, pour Cossade Locomotion? C'est par contact? C'est par réseau?
Non, c'est par contact. Et bien, si vous voulez, toutes les personnes qui viennent là lors de la manifestation, et bien, on prospecte et on discute avec les gens et c'est beaucoup de bouche à oreille. Et mais il faut savoir que quand ça a commencé en 1992, il n'y avait qu'une soixantaine d'exposants, même pas. Et aujourd'hui, on est à plus de 400. Et avant, il n'y avait que la bourse. Et puis, petit à petit, pour occuper les dames qui venaient, qui accompagnaient les maris et qui, forcément, la mécanique ne leur plaisait pas, on a créé ce site de démonstration en centre-ville pour que, justement, ça anime le centre-ville et qu'elles puissent faire les boutiques. Et comme ça, les femmes avaient aussi... c'était attractif pour les dames aussi.
Mmh. 30e édition de Tractomania, la bourse d'échange international autour du tracteur, mais pas que, pour les dames, direction le shopping ce week-end pour l'association Cossade Locomotion. On était avec Yves Durand, le président de Cossade Locomotion. Pardon. On se retrouve donc ce week-end, samedi et dimanche, à l'espace Bonaïs, sur les promenades ou sur la halle du fil, pour des animations et une bourse autour du tracteur et des véhicules anciens. Yves Durand, merci beaucoup.
Merci à vous et bonne journée. Au revoir.
Si vous avez loupé tout ou partie de ce mag et souhaitez le réécouter, rendez-vous sur le site cfmradio.fr. Il sera rediffusé à 17h et à 21h30. Pour tout de suite, les infos.
C'était votre mag avec Socosissime, l'art de vivre en Tarn-et-Garonne.